France Culture, les matins d'été, Olivia Gesbert.
Notre invité jusqu'à 8h, l'avocat Michel Toubiana, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Michel Toubiana, ce qui se passe en Turquie sous couvert d'état d'urgence doit-il nous conduire peut-être un peu à nuancer la critique sur le caractère éventuellement liberticide de l'état d'urgence en France ?
Bon, y a aucun rapport entre la situation en Turquie et la situation en France. Il faut garder la norme des choses, ce qui n'a pas l'air d'être le cas de la représentation parlementaire française, quand on juge du texte de la commission paritaire et des conditions du renouvellement de l'état d'urgence. Mais il faut être plus raisonnable que les parlementaires aujourd'hui.
Un texte qui a été validé tard hier soir par l'Assemblée et le Sénat, réunis effectivement en commission, et ce compromis, comme il a été nommé, sera soumis aujourd'hui aux deux chambres pour un vote définitif. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de citer Gérard Larcher dans le texte. L'état de droit doit s'ajuster à l'état de guerre, a estimé hier le président du Sénat dans les colonnes du Figaro. C'est un juste paradigme selon vous, alors que la menace est forte et durable, que les Français sont inquiets, qui pourrait dire le contraire aujourd'hui?
Oh. Le propos de Gérard Larcher est un propos qui implique tous les renoncements. Ça me rappelle le propos d'un ancien garde des Sceaux, de M. Sarkozy, qui suppliait de ne pas saisir le Conseil constitutionnel parce que la loi qu'il venait de faire voter était manifestement anticonstitutionnelle. Le processus actuel me paraît extrêmement grave, non seulement par les mesures qui sont prises, mais par l'esprit qui y préside. Ce texte sur l'état d'urgence ne se contente pas de prendre des mesures ad hoc, ponctuelles, durant l'état d'urgence. Il modifie le code pénal. Il demande au CSA de concevoir un code de déontologie ou de bonne manière, appelez ça comme vous voulez, pour les journalistes, dans le perspective de traitement de l'information sur les actes de terrorisme. Il va, dans le cadre des mesures ponctuelles, jusqu'à permettre l'arrestation pendant 4 heures d'un enfant. C'est écrit dans le texte, c'est dans le texte, puisqu'il s'agit de mineurs.
Sous condition.
Bah, à vrai dire, on voit pas trop les conditions qui existent, puisqu'il suffira que les policiers le décident et en informent le procureur de la République. Donc à partir de là, c'est quand même la porte ouverte à la volonté du gouvernement, puisque vous imaginez dans le cadre d'une perquisition, puisque c'est dans le cadre d'une perquisition, un policier qui va mettre d'un côté les parents et puis qui va garder un enfant pendant 4 heures maximum de l'autre côté ou dans une autre pièce. C'est l'interdiction devenue possible des manifestations dans le cadre de l'état d'urgence à la seule volonté du gouvernement, puisque il pourra interdire s'il justifie qu'il n'a pas les effectifs nécessaires. Qui va démontrer que le gouvernement n'a pas les effectifs? Cette conjugaison de mesures ad hoc et de mesures de fond est extraordinairement préoccupante, non seulement par le contenu de ces mesures, mais par la procédure qui est suivie.
Oui, mais toutes ces mesures, elles tendent aussi vers un but, la sécurité du pays, qui est quand même aujourd'hui la cible du terrorisme. Vous n'êtes pas convaincu?
Comment vous répondrez-je?
Je ne sais pas expliquer.
Gentiment, en vous disant que c'est une erreur. Ouais. Un peu agacé, en vous disant que c'est fait partie des bobards que racontent un certain nombre de gens. Il y a eu près de 4000 perquisitions. À ma connaissance, il y a, en dehors de questions d'apologie de terrorisme, qui est déjà un délit en soi, bon, très problématique, il y a eu, je crois, 2 informations
5.
Ouvertes.
C'est les chiffres qui circulent, et c'est déjà pas énorme.
En matière de terrorisme sur le plan de ces perquisitions. Nous avons eu 400 assignations en résidence. Il en reste 70. Est-ce que les 330 autres sont devenus...
Mais 5, c'est peut-être 5 attentats à éviter, non?
Bah écoutez, je ne crains que non. D'ailleurs, je pense que c'est le seul point avec sur lequel je serais d'accord avec le Premier ministre, c'est qu'affirmer qu'il existe un risque zéro est une escroquerie. Mais c'est aussi une escroquerie aujourd'hui de tenir aux Français un discours en leur disant « l'état d'urgence vous protège ». L'état d'urgence ne protège que le pouvoir de l'État. Il ne protège nullement les citoyens et citoyennes que nous sommes.
Donc, si l'argument de l'efficacité ne vous convainc pas, on fait quoi? On fait rien?
Ah si! On fait autre chose que ce que le ministre de l'Intérieur a fait sur la commission parlementaire d'enquête sur les événements. On s'interroge sur le fait que le renseignement de terrain a été décapité par M. Sarkozy et que la gauche au pouvoir a maintenu cette réforme. On saisit la société civile. On essaye de retisser les liens dans les quartiers. On ne fait pas comme le Premier ministre attiser le feu en se posant la question de savoir si l'islam est compatible avec la République. Il y a bien des choses à faire, y compris en termes policiers, pour agir. Mais cet état d'urgence, qui est une mesure... écoutez, Henri Leclerc... qui m'a précédé à la présidence de la Ligue des droits de l'homme,
grand avocat
sur cette
français.
Antenne, ouais. D'une antenne voisine de la même maison, en l'occurrence,
à Radio France,
France Inter,
oui.
À Radio France, avait, les premiers jours de l'état d'urgence, du premier renouvellement de l'état d'urgence, manifesté avec beaucoup de prudence, tant l'opinion publique y était favorable, son inquiétude face à une pérennisation, une habitude de l'état d'urgence. Ben vous voyez, ça date de novembre 2015, nous y sommes.
Oui, mais l'actualité lui a aussi donné ou a donné raison à son inquiétude. C'est-à-dire qu'il y a aussi des événements qui justifient aussi, peut-être aujourd'hui, et pour parler clairement, l'attentat de Nice de jeudi dernier, que cet état d'urgence soit prolongé.
Encore une fois, est-ce que l'état d'urgence empêche ces attentats, je ne le crois sincèrement pas. Et je crois qu'au contraire, le travail de terrain des policiers qu'on a empêché, des gendarmes qu'on a empêché, et que l'on continue d'ailleurs à minorer sur un certain nombre de points, serait beaucoup plus efficace que ces mesures de l'état d'urgence qui en même temps portent des atteintes générales aux libertés. Le problème, c'est au fond pas les mesures ad hoc elles-mêmes, c'est leur impact sur l'ensemble des libertés. Encore une fois, arrêter un enfant de 4 ans, de 4 ans ou de 6 ans ou de 10 ans, interdire une manifestation à la seule main du gouvernement, quand même des problèmes en démocratie.
Donc c'est pas juste une affaire de principe, voire de philosophie, et des mesures précises qui suscitent votre inquiétude, c'est bien ça?
Oui, il y a des mesures qui suscitent l'inquiétude. Il y a une espèce d'opportunisme détestable du pouvoir politique qui, en l'espèce, se sert de la loi sur l'état d'urgence pour modifier le code pénal. Petit exemple. Alors évidemment, ça n'a pas la même importance et le même impact. Mais comme le garde des Sceaux se sent en difficulté dans les conditions de détention de... j'ai oublié son nom... la personne accusée de terrorisme de Belgique, responsable des attentats
Salah
Abdeslam, sur les conditions de détention, sur la surveillance vidéo en permanence, dans la loi sur l'état d'urgence, on a modifié le code pénal pour l'autoriser. On est y compris dans un mode législatif qui est extraordinairement préoccupant en démocratie.
Alors Michel Toubiana, justement, vous aviez posé précédemment, vous, la Ligue des droits de l'homme, pardon, vous aviez saisi le Conseil constitutionnel pour revenir lui demander, l'interroger sur la question de la censure des saisines informatiques dans le cadre qui peuvent être procédées dans le cadre des perquisitions. Vous aviez posé ce qu'on appelle une QPC. Est-ce qu'aujourd'hui, certaines des mesures adoptées, presque définitivement adoptées dans le cadre de cet état d'urgence, vont faire ou doivent faire, selon vous, l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel?
Oui, très probablement. Je réserve mon avis, mais très probablement. J'ai survolé ce matin très tôt le texte de la commission mixte paritaire. Les mesures sur les perquisitions, sur la saisie informatique, la rétention de 4 heures, les enfants, tout cela pose des problèmes qui, je pense, doivent être posés au Conseil constitutionnel. Mais surtout, je tiens à dire avec beaucoup de solennité, la procédure qui consiste à faire adopter dans le cadre de l'état d'urgence des modifications de fond du code pénal ou d'un certain nombre ou du code de la sécurité intérieure mérite d'être soumis au Conseil constitutionnel, car ça s'apparente beaucoup au cavalier législatif que le Conseil constitutionnel passe son temps à censurer. Et il est de la responsabilité morale et politique du président de la République, du président du Sénat et du président de l'Assemblée de poser cette question au Conseil constitutionnel.
C'est le juge antiterroriste, ancien juge antiterroriste Marc Trévidic qui dit que justement on ne tue pas non plus une idéologie, celle de Daesh, en l'espèce, en réformant le code pénal. Comme Dominique de Villepin estimait qu'on n'allait pas résoudre la question de l'État islamique et avoir la paix en lançant des bombes. Michel Toubiana, arrêtons l'addiction à la peur, ce pays est drogué à la sécurité. C'est une riposte de l'écologiste Noël Mamère en début de semaine. Est-ce que vous pensez que la peur aujourd'hui nous aveugle?
Oui, manifestement. Et puis au fond, c'est compréhensible. Nous avons à en tenir compte. Le problème, c'est que...
Comment vous en tenez compte?
en tenir compte à la fois dans les modalités d'expression, à la fois dans la manière d'être et de faire. Mais en même temps, je crois qu'il faut rappeler aux parlementaires qu'ils sont là pour nous représenter, pas pour représenter nos peurs. Et que la grandeur des politiques, c'est d'aller au-delà de ces sentiments parfaitement compréhensibles que nous pouvons tous éprouver, y compris à titre individuel. Et aujourd'hui, ce vote des parlementaires est une forme de trahison de la démocratie.
Il y a quand même certaines mesures qui ont été mises en débat par la droite, notamment, et des députés, les Républicains, dans l'hémicycle ces derniers jours, pardon. Et on a assisté, je perds ma voix. Qu'est-ce qu'on fait comme ça, vous qui êtes un ténor, allez-y. Ça vous arrive au cours d'un procès. Ce serait vraiment le moment de me les donner. Désolée. On a assisté à un vrai bras de fer politique sur ces questions-là à l'Assemblée ces derniers jours. Et certaines mesures ont été quand même avancées par la droite, puis refusées par l'ensemble des parlementaires, qui pourraient peut-être donner lieu pour vous à certaines inquiétudes. On a évoqué un Guantanamo à la française, et ça c'est le député Les Républicains Georges Fenech qui a amené cette idée. Un Guantanamo à la française, c'est faire référence évidemment au camp, au centre de rétention à ciel ouvert qui a été ouvert aux États-Unis, enfin à Cuba, plutôt par les États-Unis au lendemain du 11 septembre. D'autres mesures comme l'expulsion des étrangers soupçonnés ou condamnés pour terrorisme. Est-ce que là, pour vous, il y a une dérive sécuritaire qui est en train de se mettre en place, alors dans les mots, dans cette surenchère pour l'instant, pas dans les faits, mais est-ce qu'on pourrait arriver à ce type de mesures un jour ou l'autre en France ?
C'est une dérive à la fois sécuritaire et démagogique. Démagogique parce qu'un certain nombre de mesures, par exemple l'expulsion des étrangers qui ont été condamnés, existent déjà dans le code. Et effectivement, nous pouvons être cela. J'ai été frappé par le dialogue entre le Premier ministre et M. Wauquiez à l'Assemblée nationale hier soir.
Alors Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Mais c'est vrai que le propos de M. Wauquiez est tellement caricatural, est tellement celui d'un homme sans principe démocratique que M. Valls finissait par apparaître de gauche.
Il a réaffirmé un certain nombre de valeurs et de principes, le Premier ministre, à cette occasion-là.
Oui, ce qui ne l'empêche pas d'avoir ouvert la voie au piétinement d'autres. Là, nous avons une vraie inquiétude. Cela veut dire que un certain nombre de parlementaires sont en mesure, ou en tout cas en situation, de considérer que les principes ne résistent pas à la dureté des temps. La démocratie en meurt.
Donc la France que dirige Manuel Valls pourrait être celle un jour qui instaurerait des centres où l'on enferme de manière indéterminée, pour un temps indéterminé, des individus que l'on suspecte, si je le paraphrase, et que je retourne sa proposition.
Mais la France l'a déjà fait, et sans même faire référence à des périodes noires, très noires, la période de la guerre d'Algérie est à l'évidence une période où on a connu ce genre de situation. Moi, ce que j'attends, c'est qu'un certain nombre de parlementaires...
Pendant la guerre d'Algérie, la France a connu l'état d'urgence, justement.
Oui, mais c'était pas simplement sous le cadre de l'état d'urgence que les regroupements de paysans étaient faits, etc., ou que les gens étaient astreints à demeurer dans des camps, et à partir du moment où ils étaient suspects. Et là, il y a un manque de mémoire, mais surtout un manque de principe des parlementaires qui soutiennent ce genre de choses. Je dois dire que je le regrette de la part de M. Fenech, qui était parfois mieux inspiré que cela.
Le président François Hollande était mardi à Lisbonne et il a posé peut-être la bonne question. Est-ce que nous serons capables d'être ensemble, unis, forts, ou allons-nous connaître la discorde, la désunion, puis finalement la dislocation ? Alors il n'a pas apporté de réponse à cette question. Peut-être que vous en avez une face à ceux qui ont vraiment des craintes aujourd'hui de guerre civile, c'est des mots qu'on entend, mais simplement aussi de division de la société, de tension entre les communautés. Quelle réponse apporter ?
Les tensions, elles existent, si j'en juge par le nombre d'actes anti-musulmans qui ont pu avoir lieu dans le passé récent. La vraie réponse à la question du président de la République, c'est l'union nationale, ou en tout cas la cohésion nationale. Pour quoi faire et dans quelle égalité ? Tant qu'un certain nombre de situations perdureront, un certain nombre de personnes se sentiront victimes et exclues de cette communauté nationale. Ça n'excuse et ça n'explique pas simplement ce qui s'est produit en termes d'attentats, mais c'est une réalité bien perceptible. Et faire ressurgir cet idéal de travail en commun, d'être en commun, de vivre ensemble, il faut que le pouvoir politique, quel qu'il soit, donnent des perspectives égales, permettent à chacun de se sentir à l'aise dans la société française, on est loin d'être dans cette situation. L'Union nationale, oui, mais pas sans contenu.
La réaction des politiques semble être effectivement majoritairement d'ordre sécuritaire jusqu'ici, de la prolongation de l'état d'urgence voté par les députés et les sénateurs. On peut noter aussi des propositions assez dures qu'on avait évoquées de Bruno Le Maire, d'Henri Guénaud avec son lance-roquettes. Et on a parlé tout à l'heure de la rétention des personnes suspectes pour terrorisme. Dans ce débat, il y a certaines voix qui s'élèvent pour nous dire attention. Laurent Bigot, notamment, citant Gandhi dans Le Monde ce week-end, disait qu'à appliquer la loi de l'œil pour œil, l'humanité finira aveugle et qu'il serait grand temps de changer de lunettes. On en est loin quand même, non, Michel Tulliana ?
On en est aujourd'hui très loin. On est dans une période d'exagération, de folie, d'exacerbation des choses. Encore une fois, la grandeur du politique, je le redis avec force, ce n'est pas de représenter nos peurs, c'est d'essayer d'y répondre. Et aujourd'hui, ce que je ressens profondément, à gauche comme à droite, même si des propos plus excessifs sont tenus à droite, c'est une incapacité à répondre à nos peurs, mais en revanche, une sale propension à les représenter, à se les approprier, à s'en servir et à les exploiter.
En laissant cette peur s'installer, Michel Tulliana, vous pensez que, comme les États-Unis après le 11 septembre, on est en train, avec Al-Qaïda, on est, nous, en train de tomber dans le piège que nous a tendu l'État islamique ?
Je crois qu'il est profondément juste de dire que ce que l'État islamique déteste le plus, c'est pas simplement la démocratie, c'est notre mode de vie en général, notre liberté d'expression, notre liberté d'être, l'égalité homme-femme, etc. Et je pense que quand la démocratie perd ses repères, qu'elle devient un pouvoir d'État autoritaire, etc., eh bien quelque part c'est une forme de victoire de Daesh, ou d'autres personnes de même nature.
État d'urgence, état de droit, état de guerre, la France est dans tous ces états actuellement.
Je déteste cette expression d'état de guerre. Ouais. Je crois qu'elle ne recouvre aucune réalité, si ce n'est pour agiter, là encore, des peurs.
Vous êtes surtout en état de vigilance ce matin, vous l'avez bien souligné et surligné. Est-ce qu'on n'attend pas trop, tout simplement, de l'État ? Vous parliez tout à l'heure de la société civile. Quel espace peut-on lui laisser, lui redonner, pour qu'elle se reprenne en main et apporte une autre voix au débat ?
Et puis, il faut lui en donner les moyens, mais surtout ne pas lui interdire. Ne pas l'engoncer dans un certain nombre de textes de restrictions des libertés.
Ça, c'est la ligne rouge pour vous. Justement, c'est intéressant que ces mesures ne soient pas étendues au-delà du fait terroriste, comme on l'avait vu pendant la COP21, aux migrants, aux lanceurs d'alerte, aux militants, ou tout simplement à des citoyens qui n'ont rien à voir avec l'histoire.
C'est une réalité que j'ai eu tort de ne pas souligner au début de notre propos. À savoir qu'à chaque fois qu'on nous parle de lutte antiterroriste, quand on regarde le texte, on s'aperçoit que ça concerne bien plus que la lutte antiterroriste, et vous avez raison de rappeler les militants de la COP21, mais aussi l'interdiction de manifestation, les interdictions de manifestation ad hominem qui ont été récemment prononcées, etc. Et je crois qu'en muselant la société civile, non seulement l'État se prive d'un allié en ce domaine, mais surtout ne permet pas à la société civile de réagir, et à partir de là, accroît les divisions à l'intérieur de notre corps social.
Des divisions qui sont alimentées pour vous, c'est ça, par les responsables politiques, plutôt que de réussir à contenir les tensions, justement.
Aujourd'hui, incontestablement, un certain nombre de discours qui sont tenus, je pense à des propos de M. Estrosi, d'attitude, à propos de création de lieux de culte, à propos de réflexion sur telle ou telle confession, telle forme, telle manière de privilégier telle chose par rapport à telle autre, tout cela crée un climat détestable.
Un mot, une parole d'apaisement, pour terminer ?
Je pense que c'est à la
grande
société civile...
Grande respiration, c'est pas ce qui vient le plus facilement en ce
non,
moment.
Non, mais je pense que c'est à la société civile de reprendre la main et de rappeler aux uns et aux autres qu'il y a des principes sans lesquels, le respect des principes sans lesquels nous mourrons.
Merci beaucoup Michel Tulliana d'avoir passé cette heure avec nous.